Olivier Millet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président et directeur d'Euraseo PME. On va parler avec vous de votre année 2014 et puis des perspectives. Vous venez de lever des fonds donc pour investir dans d'autres entreprises. Comment s'est passé déjà pour vous l'année 2014? Il y a eu, comme habituellement, des investissements, des cessions. C'est une année active?
C'est une année active sur les trois compartiments de notre activité. On a un métier avec trois facettes. La première, réunir des capitaux, la seconde, investir, et la troisième, après une période de transformation moyen-long terme, les cessions. Donc sur la partie cessions, on cédé deux de nos participations, Go et Frémont, et une participation minoritaire dans IMV Technologies. Sur la partie investissement, on a poursuivi nos investissements en investissant 130 millions d'euros dans des nouvelles sociétés et des opérations de croissance externe. Nous avons fait l'acquisition de Vignal Lighting Group, qui a ensuite fait l'acquisition d'Abelight. Et au troisième quadrimestre, nous sommes devenus actionnaires de Colisée Patrimoine, le numéro 4 des maisons de retraite en France.
Justement, quand ces sessions, elles se sont bien passées, c'est-à-dire qu'en termes de valorisation, pour vous, ça a été, le contexte a été favorable aux sessions?
Oui, le contexte est favorable aux cessions et il y a deux façons de voir les choses. Soit de se dire le marché est très acheteur, ce qui est un peu facile, soit de dire on a bien travaillé sur une période de moyen-long terme qui a permis à l'entreprise de se structurer et de gagner à la fois en taille et en qualité. Et toute notre thèse chez Eurazeo et donc chez Eurazeo PME est de travail en profondeur dans la transformation des entreprises. Sur des enjeux de taille et des enjeux de qualité, les enjeux de qualité étant des enjeux de qualité managériale et de maîtrise des modèles économiques, de la rentabilité et des éléments extra-financiers.
Justement, par rapport aux nouvelles entreprises que vous venez d'indiquer, il y a à la fois ce besoin d'argent, donc vous arrivez avec l'argent, mais une opportunité aussi d'acquisition, ça peut être donc assez rapide pour mettre en place déjà rapidement de nouvelles opportunités pour l'entreprise.
Ouais, il y a moi j'ai la chance de faire ce métier depuis 25 ans, donc d'avoir vécu déjà plusieurs cycles sur l'investissement dans les entreprises petites et moyennes. Je pense qu'on est peut-être à l'aube d'un mouvement assez significatif puisque beaucoup d'ingrédients sont réunis. Nous avons des entreprises de taille moyenne qui sont de très grande qualité. Avec un paramètre qu'il faut retenir, c'est la taille moyenne de nos PME. La taille moyenne de nos PME est deux fois inférieure à celle de nos amis britanniques ou allemands. Une étude il y a 18 mois montrait que la taille moyenne PME-ETI, il y a 20 000 en nombre en Allemagne et en Angleterre, qui font en moyenne une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En France, on en a 46 000 qui font en moyenne moins de 50 millions. Donc tant que les marchés étaient des marchés très domestiques, on pouvait vivre et se développer sur 20, 30, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les marchés sont beaucoup plus ouverts et donc soit on va se faire manger par les voisins, soit il faut que nos PME deviennent des pôles de consolidation et qu'on les accompagne dans le franchissement de ce fameux plafond de verre dont vous avez dû déjà parler à de nombreuses reprises.
Alors, il y a eu justement souvent cette question pour les entrepreneurs, d'ailleurs, qu'on peut rencontrer, cette question de financement, c'est-à-dire à cette étape-là, à cette fameuse étape, souvent leurs banquiers traditionnels ne sont pas présents et ne vont pas les accompagner pour faire ce saut. C'est souvent une des questions centrales. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre financement, le vôtre ou d'autres, pour franchir cette étape.
La transformation PME-ETI, c'est une alchimie extrêmement complexe. S'il y avait une recette, il faudrait la partager parce que ce serait d'intérêt pour le pays. Mais c'est une alchimie parce que c'est d'abord du talent managérial, mais pas que. C'est-à-dire qu'un talent managérial qui n'aurait pas un écosystème lui permettant de vivre les étapes de transformation et d'internationalisation n'est pas suffisant. Alors, l'écosystème, il est de différentes natures. Il est sur les sujets de financement et la chaîne de financement en France continue à s'améliorer Le crowdfunding se développe et c'est tant mieux. Les financements d'entreprises très jeunes et technologiques se développent. Le capital risque, private equity sur les boîtes jeunes se développe également. Et s'est développé un private equity sur le small to mid cap, sur des entreprises de taille intermédiaire, qui peut préparer ces entreprises soit à rejoindre ensuite la bourse, soit de poursuivre non coté des étapes de transformation. Donc en termes de ressources financières, en equity, il y a beaucoup de choses de disponibles. Ensuite, on est dans un marché où il y a également beaucoup de dettes disponibles. Il y a beaucoup de dettes pour les États, il y a beaucoup de dettes pour les grandes entreprises, et il y a de plus en plus de dettes disponibles. Alors, avec une évolution entre peut-être un peu moins de dettes bancaires et un peu plus de dettes privées, toujours est-il que vous pouvez trouver de la dette. Sauf que la dette, c'est formidable, mais ça a une limite. C'est que pour aller prendre des risques de transformation, notamment, et c'est le modèle d'Orazeo PME, d'accompagner dans une mondialisation avec des croissances externes assez lointaines, si vous faites tout ça uniquement avec de la dette, si vous y arrivez, formidable, mais vous introduisez quand même beaucoup de risques dans l'évolution de la valeur de votre entreprise. Donc, je pense que la transformation de PME en ETI, c'est du talent managérial et des actionnaires. Alors, ce n'est pas à moi de définir actionnaires talentueux, mais en tout cas actionnaires extrêmement présents, à la fois dans la discipline de structuration, d'une part, et dans les moyens financiers mis à disposition.
Ça voudra dire aussi peut-être que le manager, l'entrepreneur, cet entrepreneur-là aussi, dès le départ, il aura déjà pensé, il aura lui aussi pensé à ces étapes-là, c'est-à-dire qu'il aura imaginé sa boîte, non pas franco-française, mais dès le départ internationale.
Alors, oui, et il y a un grand, grand sujet, c'est est-ce qu'on préfère un petit chez-soi ou un grand, voire très grand, partagé avec d'autres.
Le fameux 100% de 50 millions ou le 10% des milliards.
Voilà. Donc c'est vrai avec l'univers du non-coté, comme c'est vrai avec l'univers du coté. Donc, mais c'est entre guillemets assez psychologique du point de vue de l'entrepreneur, et toutes les solutions sont respectables. C'est très respectable de dire je préfère une petite boîte que je contrôle à 100%, mais ça restera une petite boîte. Et il n'y a aucune critique derrière ça. En revanche, si je veux aller vivre une accélération du développement, avoir des capitaux suffisants, une taille critique permettant d'attirer des talents, peut-être que mes cash flows ne vont pas être suffisants et que je vais avoir besoin de dettes, de fonds propres et parfois de beaucoup de fonds propres. La thèse de Razeo PME, c'est de proposer à des entreprises qui valent entre 50 et 100 millions d'euros en valeur d'entreprise, un parcours avec notre soutien pendant 5 à 10 ans, pendant lequel on va être capable d'investir lors d'une première prise de participation, le plus souvent majoritaire, entre 30 et 40 millions de capital, et d'avoir une réserve pour doubler ou tripler notre apport en capital pour aider l'entreprise à franchir des étapes. Alors pour être concret, nous l'avons fait dans le passé à plusieurs reprises sur des entreprises dans des métiers très différents. Nous avons accompagné une société dans l'étanchéité industrielle. Cette société est passée de moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Elle faisait 8 millions d'EBITDA en 2006. Elle en faisait 45 en 2013. Donc c'est une vraie transformation et on n'est pas dans une boîte entre guillemets technologique, start-up, on est dans des métiers, étanchéité industrielle. Qu'est-ce qu'on a fait ? Deux acquisitions à Houston, au Texas, une acquisition à Edmonton au Canada, trois acquisitions en Angleterre. On l'a refait avec d'autres sociétés comme IMV, comme DeSange, qui est devenu un business franco-américain. Et la plus récente de nos acquisitions est avec une société qui s'appelle Peter Surgical, dont on est devenu actionnaire en 2013 et en 2014. On a doublé la taille de cette entreprise avec une acquisition française qui a permis d'ouvrir des marchés, notamment nord-américains. Et pendant toute l'année 2014, on a travaillé sur une acquisition d'une société indienne pour ouvrir un nouveau marché, construire un nouveau site industriel, etc. Vous sentez bien que là, pour faire ce genre de choses, encore une fois, point d'entrée, talent managérial, mais moyens financiers très importants, et entre guillemets savoir-faire dans la relation et le comportement de l'actionnaire que nous sommes dans la relation avec l'équipe de management.
Il y a eu beaucoup de questions justement sur ce rôle de l'actionnaire, parfois on le voit de manière négative en disant il va vouloir cette rentabilité à tout prix, il va vouloir, il y a toujours ce débat hein, qui est toujours présent en France, on l'a vu encore récemment. Qu'est-ce que vous répondez quand on met ça en avant, on dit oui il va falloir ces ratios, ces multiples, qu'est-ce que vous dites vous?
Je pense que le private equity a vraiment besoin de balayer devant sa porte et d'être plus explicite sur ce que nous faisons, plus transparent et plus clair sur nos objectifs. Puisque effectivement, si notre seule proposition, c'est de dire « je cherche 15% de TRI », pourquoi pas, mais c'est juste pas totalement audible. Donc la rentabilité, c'est le résultat d'un travail et d'un travail dans la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, 15% sur 6 mois, c'est peut-être pas très acceptable, mais 15% en ayant pris des risques de transformation, en ayant doublé son exposition en capital, en ayant fondamentalement changé l'entreprise, est-ce que c'est acceptable ou pas? Probablement que s'il y a eu de la création d'emplois, de la création de l'investissement, du développement, des centres de décision qui sont bien restés en France, alors le sujet de la rentabilité devient non pas secondaire, mais assez naturel. Si vous avez bien développé une entreprise, entre guillemets, vous êtes plus légitime à avoir une rentabilité un peu supérieure. Mais le private equity a une posture historique qui est assez cachée, là où aujourd'hui
on a besoin de transparence aujourd'hui.
Voilà. Et Eurazeo, le groupe Eurazeo qui est un groupe coté avec 5 milliards de patrimoine, qui est au SBF 120, fait la démonstration qu'on peut être actionnaire transparent, visible, comme une entre guillemets vraie entreprise. Et Eurazeo est une vraie entreprise avec un vrai bilan, un vrai rapport d'activité, un vrai doc de rêve où tout ce que nous faisons est totalement décrit. Donc nous, Eurazeo PME, nous sommes la filiale de ce groupe très puissant et nous mettons à disposition un écosystème pour ces entreprises qui ont envie de franchir cette étape de transformation et de mondialisation. Et c'est ce que nous faisons depuis, ça fera bientôt 10 ans que nous sommes sur cette phase d'expansion.
Merci Olivier Millet d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.